Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour chères auditrices et chers auditeurs d'Aligre FM. Vous êtes dans les arènes de l'écologie avec l'équipe de François Delaunay, donc avec Ben Kramer, avec Charlotte Leduc, avec Théo Capitaine et puis Manon Roseli. Alors Ben, tu nous demandais dans le générique combien de temps allait durer encore l'humanité. Ben, effectivement, la question se pose, mais en tout cas, on est ravis. Elle a supporté au moins cet été historique, le plus chaud de son histoire, dit-on. En tout cas, de l'histoire météorologique à l'évidence, et puis peut-être même quand même l'histoire de, d'Homo sapiens. Vous savez, notre homme moderne, à savoir nous, qui depuis 12 000 ans avons commencé à domestiquer la nature en développant l'agriculture dans le croissant fertile. Et puis depuis quand même 8 000 ans à peu près en France, depuis que grosso modo on coupe plus de bois qu'il n'en pousse. Donc voilà, donc effectivement notre invité va pouvoir nous dire si l'expression été historique n'est pas galvaudée, si c'est vraiment le cas ou pas. D'ailleurs pour en parler, donc on reçoit ce soir François Gémène qui fait partie des, on va dire, des plus connus des climato-médiatiques.
Donc, je ne sais pas si c'est une caste particulière, les climato-médiatiques.
Non, mais en tout cas, vous n'êtes pas si nombreux que ça à réussir à faire passer la parole sur le sujet.
C'est un compliment, c'est un compliment.
Voilà, c'est un compliment de notre part. Donc oui, justement, François Gémène, vous êtes chercheur, professeur, conférencier, climatologue, politologue, bon, un tas de choses.
Pas climatologue, les gens l'imaginent souvent, mais en fait non, j'ai fait des études de sciences politiques et je travaille sur les politiques et l'économie de la transition écologique et sur les dimensions humaines du changement climatique.
Vous n'êtes pas physicien alors.
Mais je ne suis pas du tout physicien et je ne fais que répéter ce que mes collègues climatologues disent sur la question de la concentration des émissions de gaz à effet de serre. Moi, je travaille vraiment sur la manière dont nous, civilisationnellement, sommes concernés par les impacts du changement climatique.
Eh bien, ça va être passionnant, donc, cette émission. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va commencer par nos célèbres rubriques, à commencer par celle de Théo. Donc, Théo qui a pris de la hauteur, puisqu'il était en stage, il est toujours en stage d'ailleurs dans le Parc National des Écrins. Et alors, Théo, tu vas nous dire ce que ont inspiré les marmottes cet été ?
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon été et une bonne rentrée pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, un été placé sous le signe de la chaleur, d'ailleurs François tu auras l'occasion de revenir dessus, et moi aussi je vais revenir sur cet été, mais comme à mon habitude, sous l'auspice des bonnes nouvelles, parce que oui, ça peut paraître dingue, mais entre deux méga-feux et une canicule, il s'est aussi passé des choses heureuses pour l'environnement et l'humanité durant cette pause estivale. Et juste avant de commencer ma chronique, j'en profite pour vous dire que moi aussi, je repars pour une nouvelle saison de bonnes nouvelles chaque semaine. Sur ce, quel est donc cette bonne nouvelle de la semaine. Et bien même si vous ne l'avez pas forcément ressenti cet été, sachez que de nombreuses grandes villes françaises et européennes déploient de plus en plus de dispositifs pour s'adapter aux périodes de forte chaleur et que ça fonctionne. En l'occurrence, j'en ai rassemblé deux. D'abord, de nombreuses villes comme Bologne en Italie ou Barcelone en Espagne ont par exemple développé leur réseau de refuges climatiques, c'est-à-dire des endroits frais ou climatisés, à mettre à disposition des habitants durant les périodes de forte chaleur. On parle de bibliothèques, d'écoles, de centres sociaux, de bâtiments municipaux, parfois même de commerce volontaire. Alors en l'occurrence, c'est plus une mesure de substitution que de réelle adaptation systémique des villes, mais ça peut quand même offrir un répit indispensable aux habitants qui n'ont pas la possibilité d'être au frais. Et par exemple, la ville de Barcelone dénombrait cet été plus de 600 refuges climatiques, maillés de sorte à ce que chaque habitant y ait accès à moins de 5 minutes à pied depuis chez lui. Et d'ailleurs, petite astuce pour l'été prochain pour les Parisiens qui nous regardent, sachez que la ville de Paris dispose de sa propre carte répertoriant ses îlots de chaleur et les sources d'eau potable. Autre dynamique plutôt encourageante du côté des cours d'école, cette fois-ci en effet, depuis plusieurs années, de nombreuses villes en Europe s'attellent à végétaliser les cours d'école. Alors au-delà du fait de faire moins mal que le bitume quand on trébuche, ces cours d'école retravaillés ont de nombreux avantages, notamment en termes de température. En effet, des études faites sur les cours d'école avant et après végétalisation montrent des écarts de température de surface, donc c'est-à-dire la température du sol, qui peuvent aller jusqu'à 12 degrés, ce qui permet de passer d'un solde à 50 degrés à 37-38, ce qui est nettement plus supportable. Ça permet également de faire baisser la température globale de la cour d'en moyenne 2 degrés, parfois jusqu'à 4 localement. Et d'ailleurs, ces cours végétalisées ne bénéficient pas qu'aux élèves, puisqu'elles sont souvent associées au réseau de refuges climatiques dont on a parlé juste avant, pour les habitants durant les périodes de forte chaleur. En France, on compte déjà plusieurs centaines de cours végétalisées partout sur le territoire, dont plus de 200 par exemple à Paris. Alors évidemment, il y a encore énormément de travail d'adaptation à faire dans nos villes, sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, mais ça montre quand même que des solutions existent déjà et se déploient petit à petit. Voilà pour les bonnes nouvelles de ce soir, sur ce je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien merci Théo, tu nous raconteras une nouvelle chronique des marmottes la semaine prochaine, mais bon je voulais juste compléter, il y a la ville de Toulouse qui annoncera aussi un plan d'adaptation climatique au mois d'octobre. Il se trouve que le maire de Toulouse est aussi président de l'association France Urbaine et qui tenait une conférence de presse hier. Donc voilà, donc c'est de l'information toute prête. Mais maintenant, justement, Charlotte Leduc, notre nouvelle chroniqueuse, va vous présenter sa première chronique dans les arènes de l'écologie. Merci Charlotte, à toi.
Bonsoir. Pour cette première rubrique, je voulais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le fléau du plastique. Ah, la consigne plastique. Ça faisait longtemps. Le 19 mai dernier, notre président avait remis sur la table cette idée, avant de faire marche arrière la semaine dernière. Consigne recyclage, toutes ces mesures ne luttent pas contre la pollution plastique. Pourquoi ? Parce que le plastique pollue à toutes les étapes de sa vie. Comment ? En rejetant des nano et microparticules dans l'environnement. Cette pollution est invisible. Et là se cache le paradoxe du plastique. Son bilan carbone est souvent meilleur que celui des autres matériaux, comme le verre ou le papier. Mais à tout regarder sous le prisme du CO2, on en oublie la fragmentation du plastique. Pourtant, c'est dans ce détail-là que se cache le diable. Les nano- et microparticules de plastique resteront pendant des siècles dans l'environnement. Notre air, nos sols, nos eaux et même nos corps sont contaminés. C'est pourquoi une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'Université de Montpellier a mis au point un nouvel indicateur, l'empreinte plastique particulière. Pour chaque objet, cet indice estime la masse de particules qui sera libérée. De la production à l'utilisation, en passant par le traitement des déchets, sans oublier l'impact si l'objet est abandonné dans la nature. Prenons un exemple, celui d'un t-shirt. En coton, il émet 8,1 kg de CO2, contre 7,9 s'il est en polyester. Mais le t-shirt en polyester émet aussi 184 g de particules plastiques. Ça représente quand même 57% de sa masse. Et autre paradoxe souligné par l'indicateur, le recyclage accélère la fragmentation du plastique. Si notre t-shirt est fabriqué à partir d'une bouteille en PET décyclée, 50% de microfibres en plus seront émises pendant son utilisation. Et réduire le problème du plastique à sa fin de vie, c'est se tromper de cible. On doit couper le robinet de la production. Et pour ça, il faut des politiques qui prennent leurs responsabilités et arrêtent de porter leur attention uniquement sur la fin de vie du plastique.
Eh bien, merci Charlotte. Alors, c'est vrai que le plastique, on en a déjà un petit peu parlé, on en reparlera. C'est une vraie question qui fait partie de ces, on va dire, de toutes les questions préoccupantes. Mais bon, il faudra la creuser. Je ne connaissais pas effectivement cet indicateur. Il est tout à fait pertinent. Alors Ben, toi, j'imagine que l'été a dû aussi t'inspirer. Qu'as-tu à nous dire dans ta chronique du Tour du Monde Intramuros?
Moi, j'ai été bassiné ces derniers jours par le fameux indicateur PISA, le classement PISA, que tout le monde connaît, qui concerne notamment la capacité qu'ont notamment les jeunes de pouvoir comprendre le béaba des mathématiques et de la culture générale. Et il se trouve que le 9 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la journée internationale. La journée internationale pour la protection de l'éducation des jeunes contre les attaques. Alors je me suis dit, tiens, quelles attaques ? Eh bien, je me suis renseigné un petit peu, j'ai donc fait mes devoirs, et il y a eu en 2025 1680 attaques contre des écoles de par le monde. Là, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose qu'on devrait, nous aussi, regarder d'un peu plus près sur... Bon, tu vas me dire, François, que j'essaye de
de faire en sorte que ça converge avec mes obsessions sur la destruction. Mais enfin, c'est quand même important que les écoles sont aussi aujourd'hui un élément clé dans la conflictualité du monde. Et ça fait partie des choses qui m'importent. Alors évidemment, à part la question du classement PISA, je voudrais aussi insister sur un deuxième point qui, je trouve, est aussi une nouvelle importante. C'est la façon dont on est en train de revoir complètement la projection de Mercator. Tu es géographe, je crois, d'origine,
oui,
donc
oui.
Tu dois connaître tout ça par cœur.
Donc pas par cœur, mais je connais.
Je trouve ça très intéressant qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a une partie de fake news dans les magnifiques planisphères que nous avions dans nos écoles. Et que, par exemple, la différence entre l'Afrique et le Groenland, c'est que l'Afrique, c'est 13 fois ou 14 fois le Groenland. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout sur nos planisphères. Donc là, on a une révision à faire. Et je pense que c'était important de le mentionner.
Tout à fait. Et puis, puisque tu as dit que j'étais géographe, je vais même te préciser deux, trois petites bricoles sur la projection de Mercator. Alors, la projection de Mercator, elle n'a pas du tout été faite pour faire de la géopolitique, je te rappelle. Puisque notre cartographe flamand du XVIe siècle l'avait fait plutôt pour les marins. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour que les marins ne se perdent pas ? Il avait apporté son attention à ce que tous les angles soient respectés. Quelque part, il se fichait totalement des surfaces. Et donc, si la planisphère de Mercator déforme le Groenland et puis toutes les parties des terres qui sont dans le nord, c'est parce que les marins n'avaient strictement rien à faire de la surface des terres. Ce qui les intéressait, c'était les hautes maritimes. Bon, par contre, tu me diras, à chaque époque, sa priorité, il est très clair que la priorité de Mercator, elle était passée depuis bien longtemps et qu'on aurait dû, pour plein d'autres raisons, changer cette projection. Et puis la nouvelle, j'ai oublié son nom, tu nous le diras.
Descartes,
voilà. Et donc effectivement, il était grand temps qu'on révise ces cartes pour donner toute sa place, notamment aux pays du Sud et à l'Afrique en particulier.
Et maintenant, on en revient à une autre priorité, c'est notre invité.
Oui, mais d'habitude, on fait la pause musicale avant
de...
Mais est-ce qu'on est prêt ?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Il en reste des traces qui partent pas à la machine. Stigmates dans la glace, des douleurs dans la poitrine. Il en reste des traces qui partent pas à la machine. Stigmates dans la glace, des douleurs dans la poitrine.
Banlieusard un jour, banlieusard toujours. Je te parle pas forcément de zone géographique. C'est là, dans mon ventre et sur les contours. Dans les gestes et les réponses automatiques. 35 ans de banlieue, c'est pas sur le passeport. Mais entre les lignes de chacun de mes textes, c'est l'esprit d'équipe, celui qui colle au corps. J'ai la banlieue en moi comme un bon réflexe. Y'a des instincts ancrés qui datent pas d'hier. J'ai perdu ma naïveté, on me fait pas la messe. J'ai toujours la méfiance dans la poche arrière. Et je crois beaucoup plus aux preuves qu'aux promesses. On nous a fait comprendre que sur ce territoire, on est moins important, ça nous a pas plu. On a grandi en écoutant leurs histoires, ça nous a rendu forts, on les a
il
pas cru.
Il en reste des traces qui partent pas à la machine. Stigmates dans la glace, douleur dans la poitrine. Il en reste des traces qui partent pas à la machine. Stigmates dans la glace, douleur dans la poitrine. Il en reste des traces,
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 traces.
Stigmates dans la glace,
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 glace.
Il en reste des traces,
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 traces.
Stigmate dans la glace,
glace,
glace, glace,
glace. Je te parle d'une époque où c'est 50 cents qui nous matrixait. Une époque où je sortais avec 50 cents et que je trouvais mon bonheur chez l'épicier. Je revis cette époque seulement les yeux plissés. Dans un joint tassé, dans une pièce qui résonne. Plus je grandis, plus je suis l'ennemi de ma raison. On se tue parce qu'on croit que la vie c'est les sommes. Où sont passés les hommes? Ce que je trouvais magnifique, jugé insalubre. C'est à l'époque où maintenant la police a pris trop au sérieux le jeu de la chasse à l'homme. Fier de mes couleurs de peau, je rougis comme un lion, là on me voyait en chat de salon. Et nos 40 en racontant plein de salades. C'est mon frère qui me salue avec un salam. Ocho,
beaucoup plus d'amour que de haine. La banlieue dans notre ADN. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit, ça se sent.
Dans la tête, dans le cœur, dans les veines, dans le sang.
Ce truc en plus qui nous dit qu'on fera mieux qu'hier.
Que rien n'est impossible, on se met pas de barrière.
Provoquer l'espoir,
c'est notre signature.
On écrit l'histoire, on est dans le futur.
Il en reste des traces qui
papa la machine. Stigmate dans la glace, douleur dans la poitrine. Il en reste des traces qui, papa la machine. Stigmate dans la glace, douleur dans la poitrine. Il en reste des traces, 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 traces. Stigmate dans la glace, 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 glace. Il en reste des traces, 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 traces. Stigmate dans la glace, 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 glace. Il en reste des traces. Stigmate dans la glace. Il en reste des traces. Stigmate dans la glace. Il en reste des traces.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. Et puis, bon, c'est la journée des erreurs d'aiguillage. J'en étais arrivé même à zapper ma propre chronique. D'habitude, j'essaye de faire accélérer.
Si c'est un beau signe d'abnégation.
Voilà, c'est ça. Bon, alors oui, donc parce que effectivement, si l'été a bousculé pas mal de choses, il y a une chose qui aurait été radicalement changée durant cet été. Bah, c'est l'image de l'héroïne de ma rubrique. Les nouvelles de Roquelaure, oui, parce que comme chacun sait, Roquelaure n'est pas qu'une marque de cassoulet, c'est aussi l'hôtel particulier qui héberge le ministère de la Transition écologique. Et donc on avait quitté Madame Barbu dans le rôle de la plus discrète des ministres du gouvernement, et voilà que tout d'un coup, il aura suffi d'un vrai faux départ pour en faire la
star.
Le plus célèbre caillou dans la chaussure de la Macronie, et donc la propulser au stade d'emblème politique absolu, avec pour titre de noblesse une rubrique quasi hebdomadaire dans le Canard Enchaîné. Bon, pour justifier son retour, Madame les ministres nous avait assuré avoir obtenu des garanties de la part du PR. Oui, dans le PR, c'est comme ça qu'on appelle le président de la République missives de cabinet. Mais bon, j'ai eu à scruter la boucle WhatsApp et les échanges avec la presse. Alors, 300 collègues suivent Madame Barbu sur la toile. Des garanties, on n'en a pas vu la queue d'une cerise. On n'a pas vu de précision. Bon, pour le moment, je dirais que la politique gouvernementale en matière d'écologie reste un petit peu sirupeuse. On essaye de la sucrer, de la rendre jolie, mais on a du mal à en voir la consistance. Mais bon, tout ça, c'était avant, parce que Madame la ministre, la semaine dernière, le jeudi 3 septembre, a annoncé qu'elle allait sortir de son hôtel et qu'elle allait présenter le bilan de l'été 2026 à Météo France avec Madame Virginie Schwartz. Ma fibre de grand reporter n'a fait qu'un tour. J'ai dégainé ma carte Navigo et puis j'ai foncé dans le RERA pour aller à Saint-Mandé écouter ce qu'avait à nous dire Madame Barbu. Alors, bon, là, c'était impressionnant. Il y avait presque une petite armée de caméras et de micros. J'étais loin d'être le seul à courir après le scoop. Donc, Madame Barbu s'est appliquée à nous lire un joli discours bien, bien ficelé. Mais bon, pour faire court, elle nous a fait part de sa détermination. Elle nous a montré que ce n'était pas une climato-sceptique. Bon, ça, on en doutait à peine. Elle était bien convaincue que 2026 n'était pas un aléa, mais l'annonce préfigurait, je dirais, l'avenir climatique qui se prépare pour les prochaines décennies. Et elle nous a aussi montré sa détermination à faire de dernier mois de son action politique, le mettre sous le signe de l'adaptation climatique et prendre des mesures concrètes. Alors, donc elle nous a expliqué que le Premier ministre lui avait demandé ce plan. Alors, pour tout vous dire, elle est restée un peu floue quand même sur le contenu de ce plan, qu'est-ce que ça allait faire, la méthode, tout ça, qui allait y participer. Donc, c'est un peu flou. Personne ne m'a répondu quand j'ai posé mes petites questions sur la fameuse boucle WhatsApp. Mais bon, on a appris quand même quelques petites choses. Elle nous annonce que le plan, c'est pour fin septembre, donc dans 3 semaines. Et hier, j'ai appris que la première réunion de réalisation de ce plan allait se faire dans 2 jours. Donc, on va avoir un plan mené tambour battant. La deuxième question, c'est qu'elle a déjà demandé une révision de la... de la réglementation thermique R2020, donc ça, dans le jargon bureaucrate, on appelle ça la R2020. Donc c'est comme si ça faisait déjà 6 ans qu'on n'avait pas pu penser au changement de donc confort thermique d'été. Donc autant vous dire que c'est carrément un changement de paradigme pour le ministère du Logement. Et puis elle a désigné le patrimoine scolaire comme une de ses priorités. On ne pourra pas tout faire d'ici l'été 2027, nous a-t-elle dit, mais je veux qu'il y ait au moins des volets et des brasseurs d'air partout. Super, ça c'est une belle promesse. Je pense que le personnel enseignant appréciera, puisqu'ils ont carrément été dans la capacité de faire les cours aux gamins durant le mois de juin. Mais bon, je rappelle juste que ce sont les maires qui vont être obligés de tenir la promesse. Donc c'est vrai que quand on est ministre, c'est plus facile de faire des promesses quand c'est les maires qui vont payer les investissements. Mais bon, on en saura plus prochainement. Et puis d'ailleurs, je en profite pour annoncer qu'on va faire des émissions sur ce genre de sujet durant tout le mois de septembre et puis début octobre. Alors, Madame la ministre nous disait aussi qu'elle voulait mobiliser et réorienter l'épargne des Français vers l'adaptation climatique. Eh bien, ça nous donnera aussi un beau sujet d'émission. Bon, eh bien, donc, entre les arènes de l'écologie et Roquelaure, on n'a jamais été aussi alignés. Donc, voilà, on va pouvoir vous annoncer plein de choses prochainement. Mais
ceci dit, si je peux me permettre, la question de la mobilisation de l'épargne pour financer l'adaptation au changement climatique est, à mon avis, une bonne idée. L'idée d'utiliser une partie de l'épargne qui est mobilisée sur le livret A au moment où le taux d'épargne des Français atteint 18% me semble être une excellente idée à soutenir pour financer l'adaptation. Parce que le problème de l'adaptation, contrairement à la décarbonation, c'est que vous avez souvent besoin de capitaux publics pour financer l'adaptation. Autant sur la décarbonation, vous allez pouvoir aller chercher des capitaux privés parce qu'il y a un retour sur investissement plus immédiat. Pour l'adaptation, c'est plus compliqué. Et donc, cette idée de mobiliser une partie de l'épargne du livret A me paraît assez intéressante quand même.
Eh bien, cher François Gémen,
il est à fond dans le sujet.
Ah oui, oui,
il est à fond dans le sujet. C'est bon.
Alors, serait-il pas arrivé en TGV ?
Je suis arrivé en TGV, bien sûr. Malheureusement, j'ai pris le TGV dans le mauvais sens avant de venir chez vous. J'étais au Mans ce midi et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un instant d'inattention sur le quai où deux TGV se croisaient. Et plutôt que de monter dans celui qui partait vers Paris, je suis monté dans celui qui partait vers Nantes.
Bon, eh ben écoutez, ça nous fera des souvenirs, comme on dit. Oui, ben, alors en tout cas...
Peut-être un petit mot sur la RE2020, que vous avez mentionné aussi, qui effectivement date de 2020, qui était une réglementation très importante pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et dont découle notamment le diagnostic de performance énergétique. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est une loi, c'est une réglementation qui est conçue pour que les bâtiments résistent au froid et pas au chaud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le problème que si vous voulez transformer votre bâtiment pour qu'il résiste au chaud, et bien parfois vous allez perdre des points et des lettres dans le diagnostic de performance énergétique.
On est encore dans l'inversion.
Revoir beaucoup de choses.
Donc il avait pris le train à l'envers. Mais bon, il existait déjà la RT 2012. Donc ces questions du confort d'hiver, ça fait belle lurette que c'était traité. Mais je vous rassure, François Gémen, ça fait pas. Quand on évoque des mesures gouvernementales, c'est pas toujours pour les brocarder. Attention.
Non, mais il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur la manière dont la ministre a été quand même relativement absente pendant toute la crise de cet été, sur une série de déclarations très très maladroites de sa part. C'est pour ça qu'il me paraît d'autant plus important de souligner l'intérêt de la mobilisation de l'Auvergnat, parce que vous savez que si on ne reconnaît pas ce qui est fait de bien aussi, à ce moment-là, toute critique devient illégitime.
Ça, c'est son côté diplomate.
Voilà.
J'ai toujours pensé que la diplomatie climatique était un grand sujet.
Eh bien, justement.
C'était le premier métier auquel je me destinais, c'est vrai.
Voilà.
Ah, voilà.
Je ne suis pas diplomate du tout.
Avant que François Gémen nous explique son parcours, on va peut-être saisir la balle au bon, puisqu'effectivement, et peut-être voir s'il peut nous aider à proposer à Madame la Ministre de venir expliquer ce qu'il va y avoir dans son sacré plan d'adaptation.
J'ai aucun doute quant au fait que le plan va être pas mal. Le problème, c'est qu'il ne sera pas financé. Et tout le problème des plans d'adaptation qui ont été présentés par les ministres successifs, il y a eu un plan d'adaptation de Christophe Béchu, un autre d'Agnès Pannier-Runacher, et sincèrement, en regardant ces plans, j'aurais une forme de satisfecit parce qu'effectivement, ils couvraient pas mal d'aspects. Mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas d'argent derrière, si vous ne financez pas ce plan reste à l'état de document. Et évidemment, ce n'est pas le ministre lui-même ou elle-même qui fait le plan, ce sont les fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui sont des gens extrêmement compétents pour la plupart. Mais le problème, c'est que si vous ne parvenez pas à dégager des marges budgétaires, si vous ne parvenez pas à gagner les arbitrages avec Bercy, eh bien, le plan reste sous-financé. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est une mauvaise idée de nommer au ministère de la Transition écologique des personnalités qui soient issues de la société civile. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont de bonnes idées, mais qui ne gagnent pas les arbitrages avec le ministère de l'économie.
Il faut
être beaucoup bagarreur. Malheureusement, la politique, c'est un métier. Il faut savoir négocier, etc. Et souvent, les personnalités civiles arrivent avec plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées, et puis se fracassent sur le mur budgétaire.
Bon, donc on va faire des cours de coaching de boxe à madame proposer.
Non, mais à moins qu'on utilise une partie des ressources, il faut qu'on les trouve ailleurs que seulement à travers l'État.
C'est la grande difficulté. Je crois qu'en France, on a parfois tendance à s'appuyer exclusivement sur la subvention publique pour financer la transition, alors qu'il y a toute une série de capitaux privés qui ne sont pas mobilisés et qui pourraient l'être. Je pense évidemment à l'épargne qui est très importante en France. Je pense à la contribution des grandes entreprises qu'il faudra, à mon avis, davantage solliciter, de manière à réserver le financement public pour toute une série de choses qui ne peuvent pas être financées avec des financements privés ou pour combler une série d'inégalités dans l'adaptation et dans la décarbonation. Mais si on prend par exemple la question de la rénovation des logements, on sait que la rénovation des logements est une priorité en France. On sait que d'un point de vue énergétique et climatique, les bâtiments sont inadaptés à la fois à la question des économies d'énergie et à la fois à la question des fortes chaleurs qu'on connaît. Mais est-ce que c'est l'État qui doit financer la totalité de la rénovation des logements privés en France? Sincèrement, je n'en suis pas sûr. Quand on sait qu'il y a à peu près 9 000 milliards d'héritage qui va être transféré de la génération des boomers aux générations suivantes, je me dis comment mobiliser une partie de cet argent privé pour financer la rénovation des logements privés? Est-ce que c'est l'État qui doit financer la rénovation des logements privés, y compris de gens qui ont largement les moyens de faire ces travaux de rénovation? Et il me semble que l'argent public devrait plutôt être réservé sur ce sujet aux ménages qui n'ont pas les moyens d'engager eux-mêmes des travaux de rénovation. Et on sait que ce sont les ménages qui sont les plus exposés aux impacts du changement climatique parce qu'ils vivent dans les logements plus petits, mal isolés et qui n'ont pas toujours le loisir de partir en vacances ou à la campagne.
Donc effectivement, c'est une façon de montrer que la question du climat, ce n'est pas qu'une question spécialisée, ça a plein d'impacts sur beaucoup de tous les secteurs de la vie publique ou de la vie en société.
Tous les grands enjeux du XXIe siècle vont être profondément transformés, je veux dire même transfigurés par la question climatique. Qu'on parle d'agriculture, de commerce, de développement, de migration, de sécurité,
tourisme,
et au-delà de justice, d'inégalité, d'équité, tous ces sujets vont être transversés littéralement par la question climatique.
Oui, alors,
d'ailleurs, il y a aussi la question générationnelle.
Oui, on va peut-être y venir. Vas-y.
Le changement climatique est en lui-même un gigantesque problème intergénérationnel.
Mais oui, mais justement, je pense qu'on devrait insister là-dessus. Et j'ai rencontré d'ailleurs quelques... comment il s'appelle? Il y a Corinne Lepage, il y a Jean Jouzel, et il y en a quelques autres comme ça.
Jeunes.
Hein?
Oui,
c'est marrant la manière dont vous le dites, Ben, parce que vous le dites comme si vous avez rencontré des jeunes et puis vous citez des gens qui ont eu un parcours assez remarquable.
Et qui sont en train de dire, mais on devrait faire quelque chose d'intergénérationnel.
Ah bah
j'ai trouvé ça une
il y a beaucoup d'associations qui existent, hein, grands-parents pour le climat, etc. C'est une vraie question intergénérationnelle, et parce que évidemment il y a un effet d'inertie climatique et d'accumulation qui fait que les jeunes d'aujourd'hui subiront des impacts du changement climatique qui ne sont pas liés à leurs propres émissions, mais aux émissions de leurs parents et grands-parents. Et puis il y a la question aussi du niveau de vie. C'est une question qui se porte de plus en plus dans le débat public. On sait qu'aujourd'hui les retraités ont tendance à vivre assez bien et que les retraites mobilisent à peu près un quart des dépenses publiques. Et donc il y a toute une série de débats qui commencent à surgir, et c'est très bien, sur la question de la taxation de l'héritage, sur la question du financement des retraites. Je me demande comment on pourrait articuler les questions de justice intergénérationnelle avec les questions de justice climatique. En d'autres termes, comment faire en sorte qu'une partie de cet argent finance aujourd'hui l'adaptation et la décarbonation.
Aligre FM 93.1.
Ça tombe bien parce que nous aussi, on se pose cette question. C'est vrai que quand on écoute aujourd'hui certains spécialistes, notamment des économistes du climat, on a l'impression qu'ils nous tirent des projections sur, ils nous donnent des échéances 2100, 2050, 150. On a l'impression qu'on est des êtres immortels. C'est comme si dans 30 ans, on n'allait pas, comment dire, être obligé de passer la main d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, on a un chemin qui est tracé, certes, mais il est fait de ruptures. Et comment faire ces ponts? Et effectivement, c'est un sujet qu'on traitera avec cette question de l'épargne, c'est toutes ces questions qu'on a abordées. On va faire de l'adaptation climatique, le fil à plomb de notre année, notre troisième année des arènes de l'écologie. Et on prépare un certain nombre d'actions dans ce domaine.
Cette question des horizons temporels, si je me permets de vous interrompre, oui. Elle est fondamentale. Parce que je crois qu'une erreur essentielle qui a été commise, y compris par la communauté scientifique, ça a été de ne pas se rendre compte que les projections de long terme sur le climat, des projections de neutralité carbone à 2050, des projections d'une hausse maximum des températures à l'horizon 2100, dépassaient en fait l'horizon de l'espérance de vie de beaucoup de gens et dépassaient évidemment l'horizon des temps de décision politique ou économique. Et toute la difficulté avec le changement
climatique... Avec le refrain sur les générations
avec
futures.
Les générations futures, mais c'est plus facile de s'occuper des générations futures quand vous connaissez déjà ces générations. Sinon, ça reste un concept un peu abstrait. Et vous vous dites, au fond, est-ce que je vais devoir consentir à d'énormes sacrifices moi-même pour des résultats que je ne verrai pas moi-même? Alors certains auront la possibilité de consentir à ces sacrifices, certains auront une grandeur d'âme supérieure aux autres, mais pour beaucoup de gens, ça ne sera pas possible de consentir à ces sacrifices s'ils ne voient pas, excusez-moi d'utiliser un vilain mot, un retour sur investissement plus immédiat et donc des bénéfices dans leur quotidien. Ça, c'est à mon avis un enjeu essentiel.
Mais je pense qu'effectivement, il faut incarner dans la vie humaine ces questions de transformation du climat, mais de l'économie, de la société en général. Mais il faut vraiment réussir à les incarner dans notre vécu.
Bien sûr.
Et effectivement, c'est une question de solidarité intergénérationnelle et fondamentale.
Et à trouver des mesures politiques qui permettent d'incarner ça. Je vous donne simplement un exemple. Nous parlions de la rénovation des logements. On a un vrai sujet sur la rénovation des logements. En France, on voit bien que le rythme n'est pas assez soutenu. La rénovation d'un logement, ça coûte assez cher. C'est-à-dire que vous allez devoir mobiliser pour une rénovation complète facilement 25, 30, peut-être 40 000 euros. La plupart des propriétaires de logements, ce sont des gens qui sont déjà relativement âgés, qui ont 70, 75, 80 ans et qui vont se dire « je ne vais pas investir 30 ou 35 000 euros » dans un truc alors que je vais mourir dans 5 ans ou dans 10 ans et qu'on sait que pour le retour sur investissement en termes d'économie d'énergie, c'est souvent sur une durée de 20 à 25 ans.
Autant faire une croisière en Égypte.
Autant faire une croisière en Égypte ou ailleurs. Mais, sauf que cet appartement ou cette maison qu'ils possèdent, ils vont souvent la transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et ces enfants et petits-enfants, ils vont payer des droits de succession sur cet héritage qui peut être tout à fait important. En France, les droits de succession peuvent monter jusqu'à 30 ou 40% si la valeur immobilière du bien dépasse 500 000 ou 1 million d'euros, ce qui arrive relativement vite avec une maison ou un appartement. Et donc, ça veut dire que des enfants ou des petits-enfants qui vont hériter d'un bien immobilier vont parfois avoir du mal, en fait, à accepter cet héritage parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer les droits de succession. Et donc, si, je me dis, si on proposait de déduire des droits de succession les montants qui ont été engagés dans les travaux de rénovation, ça permettrait de faciliter l'accès à la propriété des plus jeunes, tout en mobilisant immédiatement l'argent nécessaire à la rénovation.
Oui, c'est une logique de gagnant-gagnant.
C'est une logique de gagnant-gagnant qui permet en fait de réduire un peu ces horizons temporels en montrant un bénéfice immédiat parce que les gens verraient le bénéfice pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, pour des gens qu'ils connaissent.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait une politique climat beaucoup plus articulée, beaucoup plus, souple et inventive.
Beaucoup plus pragmatique. Parfois, on vise un peu on a des sortes de plans sur la comète, avec de la grande planification écologique à 40 ou à 50 ans. Très bien. Mais le problème, c'est que nous vivons en démocratie et pas en dictature. Et donc, en dictature, vous pouvez faire des plans sur la comète à 40 ou à 50 ans parce que vous prévoyez d'être toujours au pouvoir dans 40 ou 50 ans. En démocratie, on se rend bien compte que si ce sont les mêmes qui sont au pouvoir pendant les 40 ou 50 prochaines années, on est quand même un peu sur une pente glissante d'un régime autoritaire et que l'alternance politique fait quand même partie des conditions fondamentales de la démocratie.
Alors donc justement, dans ces politiques articulées, il y a une notion qu'on pourrait peut-être aussi, dont je l'évoquais tout à l'heure dans ma chronique, c'est que c'est pas toujours les annonceurs qui payent sur cette question de l'école. L'école, c'est le patrimoine immobilier des écoles, ce sont les communes. Donc effectivement, ça pose la question de la mobilisation aussi des pouvoirs locaux. Et en matière d'adaptation climatique, les plus gros financeurs, ça risque bien d'être les pouvoirs locaux.
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas important, ça, de le rappeler, de dire à tout le monde que ça peut marcher, mais c'est pas forcément au ministère que ça va se payer.
Il y a une diplomatie des villes aussi, c'est vrai.
D'abord, il y a une action des villes qui est très importante en matière de climat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont exsangues et que toute une série de fonds, le fonds vert notamment, il y en a d'autres qui avaient été prévus pour les aider à réaliser les investissements, notamment sur les bâtiments scolaires, les gymnases ou autres, eh bien ces fonds ont été drastiquement rabotés et aujourd'hui, les collectivités n'ont plus les moyens. Oui,
elles n'ont peut-être plus les moyens, mais malgré tout, c'est sur elles que repose l'essentiel de l'effort et c'est sûrement, malgré tout, elles qui vont réussir à faire l'effort.
Et c'est elles qui payent surtout année après année la facture énergétique gigantesque de ces bâtiments scolaires, de ces bâtiments publics, de ces gymnases, etc. C'est pour ça que je pense que l'idée de Monique Barbu de mobiliser une partie de l'épargne du livret A pour permettre ces investissements, me semble être une bonne idée.
Eh ben, on regardera ça dans les détails, effectivement.
Moi, j'aurais juste une petite question comme ça, François. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte ?
Non, j'espère pas.
Non ?
J'aime pas trop ce terme, en fait, parce que pour moi, le lanceur d'alerte, c'est celui qui crie au loup, mais sans toujours apporter des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société, on a dépassé ce cap de l'alerte. Et moi, il m'arrive parfois de me friter un peu, comme on dit, avec certains collègues qui considèrent que la position du scientifique, c'est de monter en haut de la tour, de prendre un porte-voix et de lancer l'alerte par rapport à l'imminence de la catastrophe. Je pense qu'aujourd'hui, les impacts du changement climatique, chacun les voit, chacun les ressent. Il faudrait vivre dans une caverne pour ne pas réaliser ce qui est à l'œuvre. Et donc, autant, cette alerte était absolument nécessaire il y a 15 ou 20 ans,
quand
lorsque
ces
impacts nous semblaient encore distants, lointains, quand on ne les voyait pas directement dans notre quotidien.
La maison brûle, etc.
Mais aujourd'hui, tout le monde voit bien la maison brûler. Et donc, si vous avez quelqu'un, alors que tout le monde voit la maison brûler, qui s'agite et qui court autour de la maison en criant « au feu, au feu, au feu », bah cette personne, à un moment donné, vous allez envie de lui mettre des claques et vous allez avoir envie de dire « écoute, montre-moi plutôt l'extincteur ou participe à essayer d'éteindre l'incendie ».
Non mais c'est clair que c'est les pompiers dont on a besoin là.
Et c'est ça aussi, je crois, qui explique un certain ressentiment d'une partie de la population contre parfois des militants écolos ou des activistes qui vont crier à l'alerte, mais on va leur demander « mais qu'est-ce que vous faites pour vous impliquer au niveau des solutions et concrètement, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors bon, c'est clair que ça fait 40 ans que pour certains qu'on en parle du réchauffement climatique. Ça peut effectivement faire... on finit par s'user, hein, la thématique finit par s'user.
Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire passer la discussion du registre de l'alerte au registre des solutions.
Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à créer, à construire ces nouvelles solutions. Et c'est vrai que la question de l'adaptation climatique par rapport... On a longtemps eu un débat adaptation, atténuation. L'avantage de l'adaptation, c'est qu'on est dans l'urgence et dans la nécessité.
Pourquoi vous dites nouvelle solution ? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi cet adjectif ?
Pourquoi nouvelle ? Vous avez raison, parce que si on parle de construction bioclimatique, ça fait carrément 4000 ans que ça existe.
Toutes les solutions, on les connaît.
On est bien d'accord. Nouvelle à mettre devant.
D'accord. Non, parce que certains aujourd'hui envisagent de nouvelles solutions avec des techniques de géo-ingénierie qui sont encore au stade expérimental, etc. Et dont moi, personnellement, je me méfie beaucoup.
Bah, complètement. Mais ça, effectivement... Alors, une réaction, l'autre fois, on se baladait avec Ben dans... Alors, je ne sais pas ce qu'on est allé faire du côté de l'hôpital Saint-Louis. Bon, passons. Et il y avait quelque chose de flagrant. Les nouvelles constructions étaient recouvertes, toutes les fenêtres étaient recouvertes de comment on appelle ça, les couvertures de survie. pour arrêter la chaleur, alors que les anciens bâtiments construits, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a été construit, sous Louis XV ou Louis XVI, eux étaient, parfaitement adaptés. Donc c'est hallucinant. C'est-à-dire que les bâtiments les plus vieux sont plus adaptés que les neufs. Est-ce qu'il n'y a pas là un questionnement à faire sur nos nouvelles, donc sur les modes de construction des 30 dernières années? Est-ce que les architectes n'ont pas des choses à revoir? Est-ce que c'est...
Si, il y a beaucoup de choses à revoir en matière de normes, d'architecture, d'urbanisme. Le problème, c'est que nous avons conçu nos villes et nos bâtiments pour qu'ils soient résistants au froid. Et je n'ai aucun doute que ces nouveaux bâtiments que vous avez vus du côté de l'hôpital Saint-Louis étaient parfaitement résistants au froid. Mais on voit bien que comme le climat de la France est en train de devenir un climat méditerranéen, il faut aussi que les bâtiments résistent au chaud. Et là, effectivement, nous avons sans doute beaucoup de leçons à prendre dans les architectures du passé, ou je dirais dans les architectures des pays du Maghreb ou des pays méditerranéens en général. Ça me semble être une évidence. Or aujourd'hui, notamment quand on voit les grands prix d'architecture qui continuent à être attribués et qui sont en fait très prescriptifs, parce que beaucoup de jeunes architectes se disent « voilà, c'est la voie à suivre », ce sont encore des prix qui souvent récompensent des constructions de verre et de béton. Je voudrais les voir récompenser des constructions peut-être plus...
Il y a des nouvelles formations actuelles.
On va réfléchir à tout ça pendant la pause musicale qu'on va lancer. On n'a que deux minutes de retard sur le timing, pour une fois.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
Eh bien, nous revoici dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM avec François Gémen pour ouvrir notre troisième saison sur l'adaptation climatique après cet été caniculaire. Alors François Gémen, dont vous expliquiez tout à l'heure un petit peu que vous n'étiez pas climatologue, vous aviez plein d'autres compétences, mais alors lesquelles? Vous avez fait quel parcours? Présentez-vous, donc on est arrivé à la fin de l'émission, c'est généralement là où on présente les individus.
Ah bah c'est toujours une bonne idée de présenter les gens en fin d'émission. Je suis arrivé à la question climatique par la question de l'injustice. Pour moi, il y a une sorte d'injustice fondamentale.
À l'école, vous avez fait quoi? Un bac quoi?
J'ai fait ma scolarité en Belgique, donc il n'y a pas de bac du tout. Donc ça règle la question du bac. Donc j'ai fait des humanités générales, puis j'ai commencé des études de sciences politiques avec l'intention de devenir diplomate. Et il se trouve qu'en 2001, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage de jeune diplomate à la représentation permanente de la Belgique, puisque je suis né en Belgique, auprès des Nations Unies à New York. C'est une année assez déterminante, puisque c'était l'année des attentats du 11 septembre, dont nous allons commémorer le 25e anniversaire dans quelques jours. Et ce stage m'a fait réaliser que je n'étais pas fait du tout pour être diplomate. Je trouvais que c'était assez frustrant,
d'abord parce
qu'on peut rien dire soi-même, on peut pas parler fort, il faut toujours attendre les consignes du ministère avant de s'exprimer. Et puis globalement, quand vous êtes belge, personne ne s'intéresse vraiment au point de vue de la Belgique sur les grandes questions internationales. Peut-être que mon expérience aurait été différente si j'avais été britannique, allemand ou français, mais étant belge. Et donc je suis rentré, d'une part en étant convaincu que je voulais pas être diplomate, et comme j'étais assez bon élève, mes professeurs m'ont convaincu de faire une thèse. Donc j'ai fait un master en sciences de l'environnement, puis un master de recherche en sciences politiques à Londres, et puis j'ai fait un doctorat qui portait sur la question des migrations liées au changement climatique.
C'est un
sujet de thèse de sciences politiques assez classique, une question de mise à l'agenda, le rôle que les chercheurs avaient joué dans la mise à l'agenda de ce sujet aux Nations Unies. Et puis, une fois ma thèse de sciences politiques en poche, j'étais assez rapidement engagé à Sciences Po auprès de Laurence Tubiana. Donc j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans à l'IDRI, donc le think tank qu'elle avait monté sur les questions d'environnement et de relations internationales. Puis je suis parti quelques années à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis Bruno Latour a monté à Sciences Po un grand programme de recherche qui s'appelait « Politique de la Terre ». Et m'a fait revenir à Sciences Po pour être le directeur exécutif de ce programme, donc en gros son assistant. Latour avait les idées et je les exécutais. Et puis quand Latour est parti à la retraite, effectivement, vers 2017, j'ai obtenu un mandat de recherche de chercheur permanent du FNRS, qui est l'équivalent belge du CNRS. Et puis quelques années plus tard, j'ai été recruté comme professeur par HEC pour diriger leur master sur les questions de durabilité et d'innovation sociale. Donc sur des questions très, très économiques. Comment est-ce qu'on fait entrer dans le système économique, dans la vie des entreprises, cette question de la durabilité?
D'accord. Donc,
mais on pouvait en même temps, en tant que chercheur, dans le cadre universitaire, travailler en même temps sur tout ce qui était le catastrophisme, non? Il n'y avait pas à Saint-Quentin des gens qui travaillaient
bien
sur la collapsologie?
Bien sûr, tout à fait, qui travaillaient beaucoup en fait, sur l'origine des catastrophes, sur notre compréhension des catastrophes, sur notre appréhension des risques, de la vulnérabilité.
Ouais.
Si, si. Et d'ailleurs, l'essentiel de mon travail de chercheur a quand même consisté à documenter la catastrophe. Donc j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans après Katrina, j'ai vécu à Fukushima après la catastrophe du Tohoku, donc j'ai fréquenté beaucoup de lieux de catastrophes.
Après la catastrophe, pas avant. Donc,
après la catastrophe.
Donc on peut encore vous inviter sans prendre de risque.
Tout à fait. Encore que, il se trouve que j'ai échappé à 3 attentats dans ma vie, figurez-vous. Donc effectivement, ça a longtemps été un sujet de blague parmi mes proches, qu'il ne fallait pas trop se trouver avec moi, qu'il y avait souvent des terroristes aux alentours.
Bon, et ben.
Ça me fait penser à Paul Virilio, qui voulait monter à Paris un musée des catastrophes.
J'ai beaucoup travaillé avec Paul Virilio, d'ailleurs, notamment autour de cette exposition « Terre natale, ailleurs commence ici » à la Fondation Cartier.
Ouais.
Et j'ai monté toute une installation avec Paul qui s'appelle « Exit », qui d'ailleurs est toujours visible dans la collection permanente de la Fondation Cartier, qui est maintenant installée en face du Louvre et du Conseil d'État.
Alors François Gémen, pour conclure, donc là on rentre dans la phase d'atterrissage, de la procédure d'atterrissage de l'émission. On a l'habitude de demander à notre invité de conclure. Et est-ce qu'on peut conclure comme, bon, grosso modo, on va avoir une année 2026-2027 déterminante en France, avec des échéances politiques, mais aussi, malgré tout, avec des urgences climatiques à gérer.
Ah, tu veux le coincer sur la politique, c'est ça?
Non, non, je ne veux pas le coincer, au contraire, je cherche plutôt des voies, et je suis un peu comme un alpiniste au pied de la falaise, par où on va passer? Est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu le chemin, comment vous verriez, vous, le chemin de l'adaptation climatique pour les prochaines années, et les prochaines années, ça commence demain, quoi.
Alors, vous parlez à quelqu'un qui n'a pas le droit de vote, donc...
Oui, ben justement.
Donc, donc je on va pas parler tout à fait extérieur ici, sur des enjeux politiques français.
Beaucoup de gens pensent que ça va pas forcément passer par le vote. Hein. Peut-être qu'il y a des moyens de résister à l'inéluctabilité de certains votes et peut-être trouver des moyens de résister. On parlait tout à l'heure des pouvoirs locaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'appuyer ou les professions? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des corps constitués pour changer les choses?
Écoutez, moi, ce qui me frappe, quand je regarde l'état de la transition en France et plus globalement en Europe, c'est que je pense que l'erreur que nous avons commise, c'était de faire reposer l'impulsion de cette transition sur des gouvernements.
Oui,
sur des
gouvernements qui sont occupés
par des enjeux électoraux, par des enjeux de court terme, et que j'ai l'impression que la société est beaucoup plus en avance que les gouvernements. Que ce soit dans les collectivités, dans les entreprises, dans les organisations de la société civile, il y a toute une série de solutions, d'innovations, de ruptures qui sont mises en œuvre, et je crois que d'une certaine manière, notre responsabilité et la voie d'avenir consistent à amplifier ces transformations, à amplifier ces ruptures et ces innovations de manière à ce qu'elles puissent se diffuser beaucoup plus largement. Personnellement, j'ai cessé d'attendre énormément du politique. Je pense que la responsabilité première du politique, quel que soit le candidat ou la candidate qui sera élu à l'élection présidentielle d'avril prochain, ce sera effectivement de tracer une ligne claire, une certaine forme de continuité qui puisse fournir un cadre stable, réglementaire et fiscal stable pour la société civile dans son ensemble.
Ouais, et on n'a pas les outils qu'il faut en matière de prospective.
On n'a pas toujours les outils qu'il faut en matière de prospective. Je ne suis pas sûr que le mode de scrutin soit encore tout à fait adapté non plus à la réalité politique du pays. Pourquoi n'y a-t-il que deux candidats au second tour, par exemple? Lors des élections législatives, nous avons des seconds tours avec 3, 4, parfois 5 candidats. On a des élections triangulaires, quadrangulaires. Pourquoi n'y a-t-il que deux candidats au second tour des élections présidentielles? Je voulais sur cette question.
Ah. En tout cas, effectivement, oui. Ce qui est bien, c'est que vous êtes un peu l'imagination... Il y a une force d'imagination chez vous qui est pas fréquente.
Nous sommes dans une période où il faut être créatif.
Oui, c'est ça, oui.
Si on veut sortir du système dans lequel nous sommes enchâssés, nous avons aussi besoin d'être créatifs.
Bon,
il n'y a pas beaucoup de think tanks qui font ce boulot.
Des think tanks, on a l'impression qu'il y en a à tous les étages.
Oui,
mais il y en a beaucoup, mais qui sont parfois, il faut le dire, un peu conventionnels, effectivement.
Il y avait la Suède et la Corée du Sud avaient commencé par un ministère du futur. Et j'ai trouvé l'idée intéressante.
Oui,
bon. La Belgique n'y est pas encore. Mais...
J'avais une collègue à Sciences Po, Jenny Anderson, qui travaillait beaucoup sur cette question de la futurologie et la manière dont on intégrait ces questions prospectives dans l'action politique.
Voilà. Ouais.
Bon, alors en tout cas...
Là, ce qu'il nous reste à faire.
Oui. Oui, alors il nous reste aussi 4 minutes, donc pas plus.
Il va falloir que je me sauve d'ailleurs, oui, parce que je dois partir à BFM pour poser des questions aux candidats à l'élection présidentielle.
Oui, non, mais
ce soir, c'est leur premier grand débat sur le sujet.
Eh bien, on est ravis d'avoir doublé BFM et d'être là avant BFM.
C'est super.
Et prochaine fois, vous aurez des candidats en studio.
C'est pas sûr. Bon, bah écoutez, François, on vous laisse partir. Et puis
merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter avec vous.
Et puis faut prendre date, et puis faut se revoir pour monter aussi des projets. Et en tout cas, les arènes de l'écologie sont tout à fait disposées à renouveler ces échanges, et puis à mettre la créativité climatique pas au pouvoir, mais au moins en action.
Je me sauve. Bonne soirée.
Allez, bonne soirée, à bientôt.
Merci.
Bon, bah alors, on va continuer parce qu'on ne peut pas laisser des blancs, nos auditeurs, dans le blanc. Et puis, bah, on va pouvoir annoncer le petit agenda de la semaine. Les amis des arènes, on va saluer l'association Écofrugalité qui ouvre ses portes, qui fait plein de choses depuis bien longtemps, mais qui donne plutôt rendez-vous samedi de 15h à 1h du matin à la Javel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Javel, c'est l'ancienne... c'est une guinguette qui était à la Javel, mais maintenant elle est passée de l'autre côté de Paris, elle est dans le 12e, au 5 boulevard Poniatowski, après la... pas très loin de Bercy. L'atelier Écofrugalité, c'est voir comment on peut mettre aussi l'adaptation climatique en action, et ils vont nous proposer un tas de solutions pratiques, et effectivement ça peut être très sympa. Puis faire ça dans un cadre ludique avec de la musique, ça nous changera effectivement de l'image écolo rasant que malheureusement l'écologie quelquefois prend. Donc écoutez, si vous voulez nous retrouver, on va essayer d'y être nous également, ce samedi à la Javel, au 5 boulevard Poniatowski, de 15h à 1h du matin, avec Écofrugalité.
Je voudrais quand même aussi, puisqu'on était avec François Gémen,
ouais.
Il y a son livre.
Ah bah bien sûr,
et son livre,
heureusement
que t'es
là, Ben, pour amener de la rigueur dans cette émission.
Parler du climat sans plomber l'atmosphère.
Oui, c'est Comment parler du climat sans plomber l'atmosphère, chez Odile Jacob, qui est paru en mai 2026. Vous avez vu qu'il y a eu la discrétion de même pas se citer lui-même, cet invité. C'est dingue.
Et il y a un autre événement intéressant, c'est à la fin du mois, à l'Académie du climat.
Eh bien écoutez, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.